Ah, je baisse ce magnifique morceau, The Monster's Theme with Vocals, une sélection de Izmo. Bon, on mettra ça dans la playlist du direct du jour, en direct depuis Les Espiègleries. Cinquième édition, du 5 au 8 mai, on est le 7 mai, samedi 7 mai 2016, 16h depuis le Café Délices, avec notre dernière table ronde de la journée. Table ronde autour de l'agroforesterie en compagnie de Cyril Copier et Alexandre Moras. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Agroforesterie, un très très vaste sujet. Là plus particulièrement, en fait, on va parler de ce qui s'est passé chez toi, Cyril, dans tes vignes, où donc tu as décidé d'arracher des plants de vignes pour mettre des arbres à la place.
Voilà, donc l'idée c'était en effet d'installer des arbres fruitiers dans les vignes. L'idée principale, c'était de ramener un peu d'animalité dans les vignes, c'est-à-dire des insectes, des oiseaux, un maximum de vie dans les vignes. Et donc, pour ce projet, j'ai été soutenu par Alex, donc il est là avec moi. Et Alex, c'est un spécialiste de l'agroforesterie, il s'est formé à l'étranger, il s'est formé dans plusieurs écoles différentes. Donc là, il a pu me soutenir un peu dans l'idée un peu générale et puis le fil conducteur de ce projet d'agroforesterie.
Ah, avant qu'on en... On va se concentrer sur Alex alors. Cyril, ça vient d'où ? Faire revenir des insectes, oui. On sait aussi que des arbres au milieu de la vigne, ça permet des fusions étonnantes entre leurs racines. Hein. Elles se couplent, elles se jouxtent. Ça permet des mariages, de lutter mieux aussi contre certaines maladies, ce genre de choses. Au fond, c'était quoi ton idée ?
Ouais, c'est ça. Alors l'idée principale, déjà, ça vient que la vigne, on l'a venue l'installer dans les coteaux au sud, mais c'est pas son terrain de prédilection. La vigne, on la trouve dans des forêts, c'est une liane, oui. La famille des lianes, dans les forêts le long des rivières.
Voilà, les Romains les faisaient même pousser à quelques mètres de haut dans les arbres. Hein.
C'est ça. Donc naturellement, la vigne, déjà, on est venu la stresser, puisqu'on l'a installée dans les coteaux plein sud et sec. On l'a stressée puisqu'on la taille violemment, on peut dire. Et du coup, on se passe que la vigne stressée, fatiguée, elle a des maladies. Et donc l'idée, c'était un peu de la cajoler un peu et de lui amener des arbres pour qu'elle retrouve son environnement plus familier et un peu d'origine. Ouais. Donc l'idée, c'était ça, principale.
Est-ce qu'on pourrait imaginer arrêter de planter plein sud ? Parce que là, on est donc dans une émission avec, comme partenaire, le syndicat des vins et la clairette du Diwa. L'AOC est tout plein sud.
Ouais, en fait, plein sud, justement, cette vigne qui est devenue hyper fragile, elle se plaît bien plein sud parce qu'il y a moins de champignons, il y a moins d'humidité. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est de se dire, on a planté de la densité dans des terrains plein sud forcément parce que c'est sec et aride. Et donc, il y a moins de maladies qui se développent. Mais à l'origine, une vigne, c'est une liane. Elle fait 25 mètres de long. Il y a 6 grappes. Donc forcément, nous, ça fait le bras, il fait 80 cm de long. Il y a 12 grappes. Donc forcément, on tire dessus. Et donc forcément, elle est malade. Donc l'idée, c'est quand même de favoriser la vie autour de la vigne pour arriver à adoucir un peu cette agressivité qu'on fait par la monoculture. Puisque le principal problème de la vigne aujourd'hui, c'est la monoculture. Donc il y a plusieurs stades. Il y a un premier stade qui est déjà l'engrais vert, c'est-à-dire qu'on va enrichir le sol jusqu'à 50-60 cm de haut par des engrais verts. Donc des rotations
dans
différentes plantes. Hein, on fait des rotations tous les ans, donc un mélange de céréales, donc de graminées, de légumineuses. On peut faire des trèfles, ensuite des moutardes ou des facélies. Voilà, en fait, on fait des rotations de différentes plantes qui vont d'abord travailler le sol à des profondeurs différentes et ensuite qui vont attirer des insectes qui deviendront compagnons ou pas de la vigne. Mais l'idée, c'est vraiment de recréer une diversité, une biodiversité et un échange entre chaque espèce.
Au-delà de ton travail personnel, cette monoculture qui façonne, et on en parlait tout à l'heure dans la table ronde, œnotourisme, le territoire, hein, il est bien complètement façonné par ces coteaux magnifiques de vignes et que les touristes viennent chercher. C'est un problème, cette monoculture, quand même, sur un territoire à l'échelle d'une autre. Je veux dire, si demain la clairette ne se vendait plus, par exemple, ce serait une catastrophe. Et puis au niveau des sols, d'une manière générale, de la pollution, des nappes.
On est d'accord qu'on est dans la contradiction et on est dans un système économique qu'on veut qui fonctionne quand même. On a quand même les pieds sur terre, hein. C'est pas un projet complètement barré. On s'est pas mis à arracher toutes les 5 rangées, 3 rangées, voilà. On est il faut trouver un juste équilibre entre une réalité économique qui fait qu'on peut se permettre aussi des fantaisies comme celle-ci. Je pense que pour certaines personnes, c'est vraiment de la fantaisie. Et puis, voilà, une réalité économique qui fait qu'on gagne notre vie avec la clairette de Die et on peut se permettre, on va dire, de soutenir la vigne de façon différente que de balancer des produits en permanence, quoi. Ça, c'est sûr.
Ça rejoint ton projet global aussi de travailler en bio et plus largement en biodynamie.
C'est ça. L'idée, c'est de recréer un système qui va s'équilibrer, hein, entre cette vigne, les bois qui nous entourent, les animaux qui véhiculent dans les parcelles, qui traversent ces parcelles, les insectes. Voilà. C'est de recréer vraiment une chaîne alimentaire complète qui permet un meilleur équilibre. On a aujourd'hui l'appellation, elle est exposée à une maladie, donc il a flavescence dorée. Hein. Le vecteur, c'est une cicadelle. Et cette cicadelle, on sait très bien que son prédateur, il est dans les buissons, dans les herbes hautes. Donc si demain, il n'y a plus de buissons, plus d'herbes hautes, eh ben, la cicadelle, elle se régale. Donc on affaiblit les défenses naturelles de la vigne. Les papillons ravageurs dans les vignes, hein, le ver de la grappe principalement, c'est une chenille donc, qui vient percer le raisin et qui crée après de la pourriture. Son principal prédateur, c'est les chauves-souris. Donc si demain on enlève tous les buissons et toutes les ruines autour des vignes, et ben forcément il n'y a plus de chauves-souris, donc il y a des papillons qui prolifèrent. Enfin c'est de la bonne agronomie quoi, c'est basique hein, mais c'est la chaîne alimentaire classique.
Garder ces cabanons ou ces ruines de cabanons en tout cas ouverts aussi pour les chauves-souris, c'est pas mal.
C'est ça, à plat par exemple dans la vigne de plat donc, qui est vraiment dans le village de Die. Là, on a un cabanon, il y a une surface qui doit faire 200 mètres carrés, il y a un cabanon au milieu, il n'y a que des buissons, il est entièrement dans les buissons. C'est sûr que le premier réflexe, c'est de se dire, bon, bah, je vais le piler, quoi. Je vais l'enlever, je vais mettre tout propre, lisse.
Et puis trois rangées de plus.
Trois rangées de plus. Et puis quand on se penche dans le cabanon, il y a des chauves-souris qui sont là. Et là, il y a un piège qui est installé par l'ODG là, pour surveiller un peu les papillons et ce cochilis, ce fameux papillon qui vient pondre sur les raisins. Et donc le piège, il n'y a jamais de papillon, quoi. Et moi, quand je traite la nuit, je vois très bien des chauves-souris qui tournent autour du tracteur. Donc voilà, c'est le signe qu'il y a un bon équilibre.
Parle bien dans le micro, ouais. S'il te plaît, Cyril. Parfait. Bah voilà, c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, tu peux même leur mettre une petite lumière, un petit spot comme ça. Tous les papillons seront peut-être mangés, comme on voit les chauves-souris tourner autour des lampadaires.
Ah, et du coup, l'idée, elle est à l'avance. Hein. On va sûrement avec la classe de 6e du collège là faire des pièges, des refuges, des nichoirs pour les chauves-souris. Ouais, merci Alex. Et donc, du coup, on va construire ça et on les mettra un peu dans les vignes et où on n'a pas la chance d'avoir des ruines pour abriter les chauves-souris. On va profiter de ces nichoirs.
Allez Alex, je me tourne vers toi. Okay. Alexandre Moras, vas-y, dis-nous d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes études?
Alors j'habite entre Grane et Mirmande, donc au bout de la vallée de la Drôme. Et moi je suis passionné par la nature depuis très petit en fait. Et j'étais au lycée à Die, c'est comme ça que je suis arrivé dans le Diwa. Et je fais la section sport nature là au lycée. Et donc j'ai eu un éveil aussi à la nature avec le lycée quoi. Puisqu'on avait une journée par semaine dédiée à une activité de plein air dans la nature quoi. Et ça nous m'a fait découvrir tout le Diwa en fait, vraiment plein de petits recoins.
T'as randonné avec Cyril du coup?
On n'a pas encore randonné, on s'est croisé dans les salles d'escalade.
On
a
été en ski ensemble.
Ah, en ski peut-être, ouais. Ah ouais, en ski on a fait du ski ensemble, en ski de rando.
Bon, ah quand même.
Voilà.
Non, parce que bon, Cyril cas, guide un peu hein, quand ouais, même guide, aussi par derrière.
Super guide, il paraît. Hein.
Ouais.
Voilà. Et donc après j'en suis arrivé en fait. Quand j'étais au lycée, on a eu une classe en fait un peu verte, écologique quoi en fait, une découverte de l'environnement. On a été encadré dans un cadre d'un projet pluridisciplinaire et j'ai été en fait un peu motivé par mes professeurs puis par mes camarades de classe en fait pour aller plus loin et je suis allé au Brésil en fait, j'allais jusqu'au Brésil à une conférence sur le développement durable organisée par l'ONU. Et là-bas en fait, c'est là-bas que j'ai découvert le jardinage agroforestier pratiqué par les Brésiliens, qui vise en fait à maximiser la biodiversité sur une même parcelle en diversifiant les strates végétatives.
C'est ça, et on peut faire pousser plein de choses à plein
voilà.
de niveaux.
Plutôt que de faire sur une seule culture en fait, donc ça peut être du céréale ou du légumineuse ou tout ce qu'on veut en fait. Là, l'idée c'est de s'inspirer de la forêt et de reproduire les mêmes étages forestiers en fait, mais avec des variétés. Pour produire de la nourriture. Voilà.
On imagine très très bien, comme ça va parler aux gens d'ici, un trèfle peut aisément pousser sous un blé. Ils ne sont pas coupés au même moment. Et quand on coupe le blé, on ne coupe pas le trèfle.
Voilà. Ouais. Et puis au-dessus du blé et du trèfle, il peut y avoir de la vigne, il peut y avoir des petits fruits, il peut y avoir des noyers, des pommiers, il peut y avoir des plantes grimpantes. Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée du jardin, ce qu'on appelle le jardin forêt en permaculture en fait. Et donc après quand je suis revenu en fait du Brésil, on a dans le cadre d'un TPE, on fait un TPE pour la classe de première, pour le bac, c'est une épreuve du bac. On doit faire un... Moi je me suis intéressé sur est-ce qu'il y avait des pratiques de jardinage agroforestier dans la Drôme. Et ça que j'ai rencontré des producteurs, des viticulteurs aussi, qui m'ont parlé de leur façon de cultiver la terre. En fait, c'est là que j'ai un peu découvert ce qui se faisait sur le terrain, quoi, dans la Drôme.
Et t'en as trouvé
des gens qui trouvé des ça. Gens qui faisaient vraiment de l'agroforesterie, mais j'ai découvert des gens en tout cas qui étaient passionnés par leur métier et qui voulaient aller plus loin, qui avaient vraiment le désir d'aller plus loin et qui exprimaient le besoin d'être suivis, voilà, pour gagner une certaine dynamique citoyenne pour aller plus loin, quoi, en fait. Et après, du coup, j'ai travaillé avec l'ENS, l'École de la Nature et des Savoirs, qui a dit sur la permaculture. Là-bas, j'ai un peu plus appris avec eux. J'ai fait 6 mois. Pendant 6 mois, je travaillais avec eux. Et l'année dernière, je suis allé avec Pierre Rabhi faire un...
Aux Amanas ?
Ouais, en Ardèche. Okay. En Ardèche, à Terre Humanisme, l'association motivée par Pierre Rabhi. Et donc, j'ai fait 10 mois de formation à l'animation en agroécologie. Et pour aller plus loin, après, moi, je me suis vraiment tourné... dans le monde, voir qu'est-ce qui se fait dans le monde, quoi. Parce que j'étais allé au Brésil et c'est vrai qu'il y avait le Sri Lanka aussi qui m'attirait. Et là-bas, j'ai rencontré des experts en fait de la forêt qui pratiquent vraiment de l'agroforesterie dans la forêt, quoi, en fait. Voilà. Et c'est là que ça m'a passionné. C'est là que j'ai fait vraiment mes recherches et ce qu'on peut appeler études, quoi.
Ouais, ce qu'on peut appeler études, parce que en fait, t'as même pas fini tes études que t'es déjà dedans à fond.
Enfin, ouais. Ouais. J'apprends tous les jours.
T'as aucun diplôme en fait dans ce truc-là. Enfin, est-ce que ça se fait d'ailleurs en France? On peut être ingénieur d'agroforesterie, genre de truc.
Maintenant, il y a des formations ouvertes dans les écoles d'agronomie spécialisées sur l'agroforesterie. Par exemple, il y a l'ISARA à Lyon, Supagro à Montpellier. Ils ouvrent des sections agroforesterie et même agroécologie. Ouais. Donc
filière qui t'intéresse, dans laquelle tu te verrais
non,
aller?
Non, je me verrais pas. Moi, j'ai besoin d'être sur le terrain avec des gens et faire du travail concret, quoi. Et moi, ce qui me motive, c'est réaliser des choses avec des gens, voilà, en pleine nature. Ça, j'aime. Et j'ai envie de continuer là-dedans. Et je pense que j'apprends autant, tout autant, quoi, en fait.
Retenez ce nom, Alexandre Moras va se faire sur le tas. Et peut-être qu'un jour, ce sera un expert en la matière. Comment est-ce que tu rencontres Cyril?
Bah, en fait, j'ai eu le besoin, en fait, en terminale, d'aller me remettre un peu plus dans la nature. Et comme je suis passionné par la nature, j'avais besoin de vraiment... Donc je me suis mis dans un cabanon de vigne au milieu des parcelles de Cyril. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
Tu l'as squatté, en fait, au début?
Non, c'était des amis qui m'ont prêté le cabanon. Et voilà. Ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré Cyril, quoi.
Donc tu dormais là-bas, quoi?
Je dormais là-bas et Cyril, il faisait ses préparations biodynamiques la nuit, quoi. Voilà, donc je passais le voir.
Voilà. Donc ça va, t'étais pas dérangé par ces viticulteurs qui arrêtent pas de faire du tracteur à des heures pas possibles, le dimanche, la nuit, tout ça.
J'étais intrigué, puis après on s'est rencontrés, puis finalement l'année dernière, en mois de mars, Cyril il m'appelle, il me dit je me lance dans l'agroforesterie, si ça t'intéresse, m'accompagner. Je fais bah carrément.
Donc c'est vraiment parce que vous avez discuté l'un l'autre comme ça, un peu de ce que vous faisiez, de lui ce qui le passionnait, et toi ça t'a fait tilt ou t'avais quand même senti
ouais,
au fond?
En fait, Alex, il y a déjà 5 ans, il m'en avait parlé, on grimpait là sur un mur et il m'a dit tiens, et l'agroforesterie, je sais que t'es viticulteur, tu connais un petit peu tout ça? Et là, je lui dis, pas vraiment, j'en ai entendu parler, mais voilà, puis on s'est resté là-dessus, quoi. Puis dans ma tête, ça s'est mis dans un petit coin. Et puis du coup, dès que je voyais un bouquin ou un article, je regardais et tout doucement, ce projet a mûri. Et puis ensuite, en me penchant aussi sur la biodynamie et la vie en général, je me suis dit que dans la vigne, en monoculture comme ça, on ratait vraiment quelque chose. Il y avait une étape qui n'y était pas. Il y avait une espèce de bien-être qu'on avait vraiment gommé. Et donc je me suis dit, voilà, et là dans tout ce que je pouvais bouquiner sur l'agroforesterie et de ce que je pouvais échanger avec Alex, je sentais qu'il y avait un truc à faire, quoi. Alors c'était marrant parce que c'était une approche complètement différente, quoi. Moi j'avais le côté très, on va dire, concret, quoi, un peu concret de quand même de mener une ferme, de la conduire de façon un peu, ben, justement avec ce côté un peu économique, quoi, se dire quand même il faut...
Voilà, faut quand même faut pas qu'il me fasse chier après.
Voilà.
Aussi, faut pas
et puis Alex, il arrivait avec ses idées, ah ouais, ben, qui étaient des fois qui allaient jusqu'au bout du truc, quoi. Et je me disais, ben voilà, il faut trouver un moyen pour assembler tout ça. Et concrètement, ben là, quand même, on a planté 200 arbres. Cette année, on a planté 200 arbres. On a eu donc ce beau projet d'échange. Et ça a été très sympa aussi avec des Diwa et des gens même de plus loin qui ont participé au projet, puisqu'on a fait un financement participatif, là, ouais. Qu'est-ce qui se manque. qui a très bien marché. Et donc l'idée, c'était pas ben, vous nous soutenez dans le projet puis on vous donne des bouteilles à la place. Non, c'était pas du tout ça l'idée. C'était vous nous aidez à lancer ce projet, comme c'est quand même un projet qui est entièrement gratuit, quoi. C'est entièrement donné à la biodiversité et à la nature. C'est pas quelque chose qui est rentable. On peut pas appeler ça rentable. Mmh. Et l'idée, c'est de dire ben, en échange, vous venez planter avec nous, vous venez greffer avec nous, vous venez partager des moments d'échange dans les vignes avec nous. Et ça a super bien marché. Et moi, je vois la vigne de plein. Depuis que j'ai planté des arbres, il y a un tas de gens de 10 qui passent et du coup qui viennent me voir et qui sont interrogés et on échange là-dessus. Alors qu'avant, les mêmes personnes traversaient la vigne, il n'y avait pas d'échange parce que voilà, je faisais de la vigne comme tout le monde fait de la vigne, quoi.
Ouais, ouais. Et puis on se dit, c'est une propriété, c'est palissé, on n'y va pas.
C'est ça, mais là aujourd'hui, il y a des arbres au milieu, il y a tiens, c'est curieux, qu'est-ce qui bricole ? Ça interroge et ils se disent, bah oui, en fait, c'est comme ça que mon grand-père faisait, quoi. Avant, c'était comme ça, il y avait toujours des amandiers, il y avait toujours des pêchers. Les pêches de vigne, ça vient de là, quoi. Il y avait toujours des
200
arbres.
200 arbres, vous avez planté quoi comme essence ?
Alors là, on a planté, il y a une dizaine d'essences différentes. Hein. Il y a ça part du fruitier, donc pommier, pêcher, cognacier, pommier, poirier, cerisier. Et il y a aussi des fruits à coque, hein. Il y a de l'amandier.
Noyer aussi.
Très peu de noyer, parce que le noyer, c'est quand même pas idéal. Kaki. On en a mis quelques-uns, du kaki. Et donc l'idée, c'est justement, Alex en a parlé un peu rapidement tout à l'heure, des étages de végétation là. C'est de rajouter maintenant entre les arbres des plantes médicinales, aromatiques et des petits fruits. Mm. Tu peux en parler
de
un
quel
peu
type ouais, ouais.
Bah, c'est de mettre en fait des plantes, par exemple l'hysope, c'est ouais. Une plante qui aide la vigne. La lavande, c'est un insecticide naturel. Oui, donc ouais. des plantes, des insectes qui peuvent être nuisibles pour la vigne en fait, ces plantes-là, du fait de leur présence, va éloigner les éventuels ravageurs. Et il y en a certaines plantes même, on nous appelle, c'est des auxiliaires, en fait, ils s'entraident et du coup ils travaillent ensemble en fait.
Des plantes compagnes, ouais.
Ouais, des plantes compagnes, ouais.
On s'appuie sur des essais qui ont été faits déjà. Hein. On a vu, oui. Par exemple, il y a des essais qui ont été faits où il y a eu, par exemple, des pommes de terre qui ont été plantées entre les rangées, il y a eu des choux, il y a un tas d'essais qui ont été faits. Et là, par le biais de la biodynamie, on avait des résultats quand même. On se rendait compte que la pomme de terre, par exemple, avec la vigne, ça faisait pas du tout. Mmh. Hein, donc, t'en as parlé un petit peu au début. Ouais. C'est l'idée un peu de cette complémentarité entre les racines. Et en fait, il y a des mycorhizes, donc c'est des petits champignons qui permettent à la vigne, des mycorhizes qui se développent au bout des racines. Et en fait, ces mycorhizes, c'est elles qui permettent d'assimiler et de prendre les éléments nutritifs dans le sol. Et en fait, il y a des mycorhizes qui peuvent être concurrentiels et des mycorhizes compagnes.
Ouais. Donc, et l'intérêt. Quand ça se mycorhize entre eux, c'est les champignons qui font la fusion entre les.
C'est ça. Et en fait, c'est le champignon qui permet à la plante de se nourrir.
Truc assez aberrant, c'est que notre monoculture de la vigne, et on le rappelle depuis le début, en coteau, plein sud, sur des beaux cailloux, se fait en lutte constante contre l'ensemble des champignons, puisqu'on veut en éliminer deux principalement,
c'est ça.
Le mildiou et l'oïdium, et donc on défonce tous les autres, et un sol sans champignons, c'est un sol qui...
C'est ça, c'est pour ça que le cuivre, on a vraiment intérêt à limiter les quantités, puisque le cuivre est quand même toxique. Pour le sol, et donc forcément tout ce qui va détruire champignons, donc c'est important de trouver des méthodes alternatives à tout ça, et on s'en approche, hein, avec des traitements. Donc aujourd'hui on soutient la vigne plus qu'on la traite, on la soutient avec des plantes médicinales, donc de la prêle, on la renforce avec de l'ortie, on va lui proposer des modèles comme de l'écorce de chêne en fin d'été, là qui est un modèle de matière morte, donc là la vigne elle va calmer les repousses, elle va arrêter de pousser. Voilà, il y a des méthodes qui permettent de passer les bonnes années comme l'an dernier autour de 500-600 grammes de cuivre métal à l'année, quoi.
D'écorce de chêne, alors que le chêne c'est pas bien qu'il soit à côté de la vigne.
Ouais, mais en fait
ils ont un champi qui va pas lui justement,
ouais,
ensemble.
Mais en fait l'idée de ça, c'est qu'une écorce de chêne c'est quelque chose de mort, il n'y a pas plus mort qu'une écorce de chêne. Donc on va la mettre en décoction. On va donc la mélanger à de l'eau et en fait on va apporter un modèle sur la vigne de matière morte et donc on va limiter les repousses. Et le champignon, comme le mildiou qui vient s'installer sur la vigne, le champignon il s'installe uniquement pour enlever les parties qui sont en trop sur la vigne. Donc ça c'est une des principales, c'est aussi de l'agroforesterie, de la permaculture et de la biodynamie, c'est de se dire le champignon il n'est pas là pour détruire la vigne, le champignon il vient s'installer pour enlever les parties malades. Et donc ça vient complètement transformer la réflexion qu'on a par rapport à la lutte contre ce champignon. En fait il suffit qu'il n'y ait pas d'excès.
Toutes les vignes sont ultra malades.
S'il n'y a pas d'excès de vie en fait, l'excès, ouais, de vie c'est les pousses, c'est ça. Trop importantes. S'il n'y a pas d'excès de vie, le champignon ne s'installe pas. Et d'ailleurs on le voit très bien sur les vignes qui poussent tout doucement, ou les lianes dans la forêt qui poussent très doucement puisqu'elles ne sont pas taillées. Et ben, il n'y a pas de mildiou. Hein, nous les rangées de bord où il y a des vignes qui végètent ou des souches qui poussent mal, il y a très peu de vie. Et en fait le champignon ne vient pas s'installer là. Il vient s'installer dans les rangées où il y a beaucoup de vigueur, où on a apporté du fumier mal composté, ou des composts foliaires qui vont booster la vigne d'un seul coup, ou de l'ammonitrate, hein, de l'azote disponible tout de suite pour la vigne. Là, on va créer de la pousse violente, et donc forcément, il y aura trop, la vigne, elle va trop pousser, et donc il faut absolument détruire tout ce qui pousse en trop, sinon on va trop affaiblir la vigne. Le champignon vient détruire cette partie nuisible.
Et nous, on lutte ardemment contre.
C'est ça. Et c'est toujours, bah, c'est pareil pour l'homme. Hein. Il faut donc entretenir le bien-être et une croissance régulière et réfléchie pour limiter la maladie.
Agroforesterie, Alexandre, alors au moment où là concrètement tu peux expérimenter à loisir, hein, planter 200 arbres, c'est quand même royal comme test. Qu'est-ce que tu cherchais là? Qu'est-ce que tu cherches?
Moi, ce que je cherchais déjà, c'était la première fois en fait que je travaillais avec un paysan. Voilà. Et vraiment, c'était la première fois que je travaillais avec un paysan, donc je suis très content d'avoir travaillé avec Cyril sur ce projet. Donc pour moi, ça, c'était une première. Ensuite, planter autant d'arbres aussi, c'était une première. Et après, on va voir, quoi, parce que c'est que le début. Donc l'idée, c'est de suivre l'expérience.
Voilà,
c'est une expérience du jour, c'est ce que va raconter Cyril. S'il faut observer. C'est comme ça, l'agroforesterie, toutes ces pratiques en fait plus respectueuses de l'environnement. On s'intéresse à la plante plutôt que et on s'intéresse aussi à notre réalité économique, mais on s'intéresse aussi à la plante, c'est l'idée. Parce que la vigne, bah voilà, parfois on peut se dire que certaines personnes la connaissent mal. C'est pour ça qu'on doit mettre des traitements, tout ça en fait. Donc toutes ces pratiques en fait, c'est d'observer la nature et d'y répondre avec intelligence en conciliant notre réalité économique pour vivre.
Avec l'idée qu'on a perdu quelque chose, parce que vous le citiez au tout début, je ne sais plus l'un ou l'autre, que les anciens le faisaient, il y avait des plantes,
en
il
fait,
y avait même des rosiers aux entrées. Pour
ouais, alors les plantes compagnes, on peut dire, elles étaient là, mais c'est parce que les parcelles étaient beaucoup plus petites. Donc c'était des parcelles qui faisaient 1500, 2000, 3000, les plus grandes devaient faire 5000 mètres. Donc forcément, il y avait du bois autour, il y avait forcément des arbres fruitiers autour. On entretenait les haies, au lieu de les piler à l'épareuse, on les entretenait. Donc forcément, en les taillant légèrement, elles fleurissaient. Donc en fait, c'était presque naturel pour eux d'avoir un arbre fruitier autour de la vigne. Quand il y avait des cerisiers, forcément du merisier qui venait greffer en cerisier. Voilà, c'était une pratique qui se faisait parce qu'on prenait le temps aussi d'entretenir tout ça.
Et puis parce que c'était, on n'était pas dans la monoculture, on avait plusieurs ateliers à chaque fois.
Il y a ça, et puis je pense qu'on n'avait pas non plus la pharmacopée d'aujourd'hui. Ah. Donc forcément, les ravageurs, ils faisaient vraiment du mal. Donc on essayait aussi de, je pense, on faisait avec les moyens du bord, on faisait.
Tu veux dire même en intrant chimique, on n'était pas assez, aussi bon à l'époque.
On n'avait pas tout ça. Ça c'est sûr qu'on n'avait pas. Avant, c'est pas compliqué. On avait un petit élevage. Cet élevage, il était nourri par des céréales ou par du fourrage qu'on faisait sur des terres voisines. Le compost de ces vaches, il venait alimenter la vigne. Et on avait un fonctionnement circulaire qui faisait qu'on avait forcément des fermes à petite taille. Donc la ferme, elle avait un fonctionnement circulaire qui permettait un équilibre. Et on avait un peu de vigne pour faire un petit peu de vin. Mais on ne faisait pas, des millions de bouteilles, ça c'est sûr. Donc l'équilibre, il était naturellement.
Dans nos réalités économiques, tu n'as pas été cité depuis le début. Est-il possible de penser une association avec une ferme de brebis pour toi dans tes vignes, par exemple, ou de recréer à échelle plus grande l'ensemble des ateliers qui existaient sur une ferme?
En fait, c'est un peu ce que je fais moi, par exemple. C'est-à-dire que mon fumier de vache, en fait, le fonctionnement un peu circulaire, je l'ai écarté à mes voisins. Voilà. Donc mon fumier de vache, il vient d'une ferme en bio à Saint-Julien-en-Quin, là, de chez David Toussaint. Mon fumier vient de là. Mes pailles, quand je vais pailler mon sol, elles viennent de chez Michel Breton, donc pareil, qui est en bio sur 10. Et on a un espèce de fonctionnement comme ça, circulaire, mais un peu plus écarté.
Et toi, qu'est-ce que tu leur donnes?
Et moi, je leur donne de la clairette. De la clairette, des fruits. Ils auront bientôt des fruits. Voilà, l'échange, il pourrait être comme ça.
Ouais, super.
Donc, bien sûr. Et justement, jusqu'à présent, à part leur donner de la clairette, j'avais rien. Mais demain, alors je fais des céréales dans les vignes, mais moi, je les réincorpore intégralement au sol.
Oui, c'est vrai, c'est ça.
Mais c'est sûr que.
Alors, cet atelier fruits, oui. Alors, 200 arbres, ça peut quand même être quelque chose de.
Alors,
de
l'idée,
concret, quand même,
l'idée c'était aussi ça par rapport aux échanges de nos partenaires et des gens, des citoyens qui nous ont soutenus dans ce projet. C'est de se dire, bah voilà, ils vont avoir un arbre. Donc, le 4 juin, on fait une inauguration de cette plantation et puis de nos premières cuvées en biodynamie là, qui vont sortir donc, cette année, le 4 juin. Mm-hmm. Voilà, donc là, ils vont nous. ils vont venir parrainer un arbre. Donc l'arbre qu'ils auront financé, finalement, ils pourront être parrains et suivre cet arbre. Et bien sûr, ils pourront. Il y aura, dans l'idée, c'est de se dire qu'il y a 10% de la récolte qui sera redistribuée à tous les participants du projet. Et puis l'idée, c'est de favoriser aussi le marché court, forcément, avec de la récolte. Comme on a planté dans une rangée, on n'a jamais planté la même espèce et la même variété, pour que la floraison s'étale au maximum. Ça va être un peu du picorage, on va dire. On va venir picorer des fruits de temps en temps, et il y aura sûrement des cagettes de fruits qui seront proposées à la Carline ou sur le marché, en complément de notre clairette, qui seront les fruits du moment. Ce sera un peu ça. Et on est allé jusqu'au bout du délire, on va dire, avec Alex cette année, puisqu'on est venu apporter de la vigne. On a planté donc de la vigne au pied des arbres. Et donc cette vigne, on va la mener sans aucune taille, et on va la laisser courir dans les arbres, comme la liane, quoi. Vraiment ça. Et donc on va tirer des fils entre chaque arbre pour qu'elle aille courir d'arbre en arbre. Et donc zéro taille. Et donc on observera si elle est plus malade ou pas. Voilà.
Donc là, oui, donc il y a eu quand même des plants qui ont été arrachés pour laisser une belle place à ces arbres. C'est que d'ailleurs, t'en enlèves combien 3, 4.
Alors là, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parcelles en fait qui étaient très éclatées. C'était beaucoup de petites parcelles avec beaucoup de chemins au milieu.
Ah.
J'avais beaucoup de vignes anciennes. Donc il y a beaucoup d'endroits où j'ai juste agrandi un petit peu les chemins. Donc en fait, concrètement, j'ai arraché très peu de plants de vignes. Donc ça, c'était bien parce qu'économiquement, du coup, c'était sans problème supportable. On a dû arracher 500 ou 600 plants de vignes. Donc c'est vraiment rien, quoi. Quand on sait qu'une sur une parcelle, il y a 5000 plants. Moi, en plus, j'ai beaucoup de vignes qui sont plantées à 1m80 ou à 2m. Du coup, j'ai une densité qui est énorme en plants de vignes. Donc, on a très peu arraché de plants de vignes. On a surtout élargi des chemins. Et par un pas plat, on a dû arracher 300 plants de vignes. Et on a réussi à mettre 5 rangées d'arbres. Et les bandes, elles font quand même 6 mètres de large. Ouais. Mais en fait, quand j'avais un chemin de 4 mètres, j'ai juste arraché une rangée. De suite, ça m'a fait une rangée de 6 mètres. Voilà. Par contre, j'ai plus de chemin entre mes vignes. Donc c'est pas grave, il n'y a pas besoin.
Oui, puisque de toute façon c'est toutes les tiennes.
Voilà.
Et donc là vous avez dans ces nouvelles rangées, donc où il n'y avait pas de plants, replanté des.
C'est ça.
Et là comment, au pied de l'arbre
Au pied de l'arbre, à 20 cm de l'arbre, on a mis un plant. Ben là on a mis de la ligotée et du muscat. Donc là cette année on a mis les plants greffés. Donc là, on fait une petite entrave. Déjà, on vient perturber déjà un peu la nature.
Aïe.
Donc, dès l'an prochain, comme c'est quand même de l'expérimental, l'an prochain, on va mettre du plan direct. Et on va mettre quelques plans directs. Donc des.
Alors, des... ceux qui sont soumis à la fameuse maladie.
Au phylloxéra.
C'est ça, au phylloxéra.
Au phylloxéra. Donc, on va faire cet essai. On va planter quelques plans directs au pied de l'arbre. Et on va faire pousser ça dans l'arbre. Et
voir.
Voilà, bon, c'est vraiment expérimental, hein, mais l'idée c'est de se dire tiens, comment se développe la vigne, combien de grappes elle fait de façon sauvage. Et là, on va se rapprocher de ça.
Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était farfelu. On te fait ce discours, on vous fait ce discours à tous les deux, même Alexandre, tu peux répondre. Parler d'agroforesterie, délirer sur la nature, tout ça, c'est pas être un peu hippie
En fait, non. Je pense que dans le Diwa, quand même, tous même les viticulteurs dans le coin. Qui mènent leur vigne en conventionnel, ils ont tous des haies, ils ont tous des arbres qui fleurissent. Et quand ils traversent nos parcelles, ils imaginent assez bien que des parcelles d'arbres fruitiers dans des vignes, de la floraison, on n'est pas éloigné de ça. Dans le Diwa, quand même, je crois qu'aucun viticulteur n'est éloigné de cette nature. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de parcelles éclatées dans les bois. Donc on en est loin. Hein. C'est sûr que c'est un projet, ça peut faire légèrement sourire parce qu'on se dit que c'est quand même un projet un peu. Qui n'est pas habituel, mais je pense sans problème que ça se va généraliser et que tout doucement, il y a plein. Je vois Jérôme Vincent, Pamba Barça, qui replante des arbres le long de ses vignes. Voilà, tout le monde est là-dedans quand même. On a passé l'idée de piler tous les buissons autour des vignes. Je pense qu'on est en train d'y revenir.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce projet Côté Cairn ? Tu es en train de créer avec deux autres personnes. Et même trois autres encore, enfin tout un tas de gens, tout un tas de cailloux. Côté Cairn, une nouvelle clairette. Il y a 36 stands hein, là sur les espiègleries, il en manque un, puisque l'année prochaine, a priori, vous serez là. Une nouvelle clairette en biodynamie qui suit ton projet.
C'est
notamment.
Ça. Donc, on s'est regroupé donc avec Ambise et Vincent Lefort donc, de Barnave. On s'est regroupé donc à trois pour construire ce projet et pour édifier ce cairn en effet. Et on s'est dit, on souhaite que notre bouteille ressemble à respire en tous les cas la façon dont on travaille, puisque donc Ambise et Vincent sont très proches des pratiques, hein, on échange beaucoup et ils sont là-dedans aussi. Donc on s'est dit, on veut une clairette qui nous ressemble, et on s'est dit, bah voilà, on va se lancer, on va conduire nos raisins jusqu'au bout de la façon qu'on aime. On va être soutenu pour la vinification, donc on s'est associé à la cave Manger Granon à Vercheny, qui ont tout de suite été très motivés par notre projet. On s'est entouré de compétences aussi, et puis de regards un peu extérieurs pour monter ce projet. Donc il y a Jean-Pierre Brun, un Diwa aussi, qui est dans le développement, en tous les cas écologique et naturel, sur le Diwa, qui nous aide aussi à tenir notre chemin. Il y a Thérèse Rapina, donc, qui nous aide aussi à formuler nos idées, à poser sur le papier un peu notre réflexion. Et donc voilà, et donc la clairette, elle sort d'ici 10 jours, là, on aura nos premières bouteilles. On fait donc une inauguration le 3 juin, un peu officielle, le samedi 3 ou le samedi 4, je ne sais plus. Une inauguration à la Vigne de Plat et puis à la Carline. Et voilà, et on espère une clairette qui nous ressemble, et donc en tous les cas, qu'on aura grandi au milieu des arbres fruitiers, et qu'on espère, voilà, original.
Original, en biodynamie, donc ça on l'a bien compris, avec un process éventuel généralisé sur l'ensemble des parcelles en agroforesterie, avec aussi cette chose quand même un peu étonnante de créer encore une clairette là, ici dans les circonstances actuelles.
L'idée, c'est vrai que c'est un peu, déjà, nous on s'est tout de suite dit, bon, on veut créer une clairette qui nous ressemble. Mais comment la faire en réduisant un peu l'impact écologique? On s'est dit, demain, si on doit encore créer nos titres de production, faire une nouvelle cave, aller encore se mettre des crédits jusqu'au bout, jusqu'au cou, enfin se mettre vraiment, se lancer dans un projet qui ne sera pas vraiment viable. On s'est dit, comment on peut s'associer à déjà s'associer à une cave déjà présente sur le territoire d'Iwa, et se dire, bah voilà, comment on peut créer un peu une synergie un peu qui va nous pousser, nous aider. Et là, l'avantage de l'association avec la cave Manger Granon, c'est qu'aujourd'hui, le côté vinification, eh ben, nous, on le suit avec eux. Et un œnologue, Rémi, là, qui est passionné aussi par la vinification, qui travaille sur ce produit, on sent qu'on est soutenu, il y a de l'échange.
Oui, parce que là, du coup, ils créent carrément un nouveau produit hein, aussi. Hein.
Ah ouais,
on
pour
sait
eux,
que chaque clairette peut vraiment avoir une identité.
Ah ouais, pour eux, ça a été un gros challenge. Ils se sont dit, nous, ça nous plaît, le projet nous plaît. Même si jusqu'à aujourd'hui, ils ne travaillaient pas comme nous. Ils se sont dit, ben, finalement, on serait peut-être prêt aussi à changer un jour. En tous les cas, nous, ça nous plaît de soutenir cette démarche. Et donc, du coup, on a été 100% partenaire. Et là, nous, on est contents de pouvoir déléguer le côté technique vinification, en tous les cas, à des gens passionnés. Et puis, dans lequel, où nous, on peut avoir un regard, on déguste avec eux, on fait des choix avec eux. Et du coup, on sent vraiment un échange. Et voilà. Et on pense que la bouteille va ressembler à nous.
Une clairette qui vous ressemble, ça passe donc par limiter les coûts, par faire ça en association, en mutualisation. C'est un petit peu la pierre du cairn, on continue là-dessus. Mais c'est aussi une manière de la vendre un peu différente.
C'est ça, c'est aussi, on va se dire, je crois qu'en biz, Vincent et moi, on avait quand même cette idée de se dire, c'est que les gens qui travaillent avec nous, il faut qu'ils arrivent à acheter notre clairette. Quoi. Ça reste... Pour nous,
c'est-à-dire tu parles des saisonniers par exemple.
C'est ça, entre autres les saisonniers. Et on se disait, bah voilà, aujourd'hui une clairette au-dessus de 9 euros,
bio,
10 euros, 11 euros, c'est pas raisonnable pour. Enfin, c'est pas raisonnable. En tous les cas, nous, on veut réussir à faire moins cher. Et le fait de nous regrouper, on arrive aussi à optimiser ses coûts. Et on veut être très clair par rapport à ça et très transparent aussi. Il y a un coût de production de raisin, il y a un coût bio, il y a un coût de vinification, il y a. Voilà, on travaille avec Clément aussi, j'ai oublié Clément Gary qui est vraiment un acteur principal, donc qui est la personne qui nous a aidé aussi à créer un peu le marketing, on va
l'image,
dire, parce que c'est
ouais,
ça, l'image ouais. Autour de cette clairette, à poser sur le papier le cairn, à le dessiner, à créer des étiquettes, donc il est surdit aussi, l'imprimeur là pour toutes les affiches et toutes les prospectives, on travaille avec Vassili, avec Heraldi, qui est aussi surdit, voilà, l'idée c'est quand même de... Ben, c'est toujours cette idée du cercle, hein. Ce cercle et ce cercle court, quoi, en tous les cas, on va l'entretenir ici. Donc là, on pourra la trouver, cette clairette, en distribution surdit, donc à la Carline, bien sûr, au magasin de Laure Achard, là, Verdurant, donc au centre-ville, l'épicerie fine, enfin, épicerie bonbons et vins.
Ouais, ouais.
Et puis chocolat. On l'aura, voilà, chocolat et principalement chocolat, t'as raison. Ouais. On voit les connaisseurs.
Bah ouais, non, voilà, Achard et Verdurant, le magasin vieux.
Et bien sûr, magnifique. En dégustation et ouvert au Café Délices. Et voilà, et on espère aussi une synergie entre ces trois distributeurs un peu différents. Mm-hmm. Différents, originaux et qui pour nous aussi reflètent la réalité du Diwa. C'est-à-dire de la qualité à travers l'épicerie de l'or. Enfin, le magasin de chocolat et de vin, le côté un peu original dans le Café Délices.
Et bio.
Et bio aussi. Mmh. Et la Carline, bien sûr, avec cette idée coopérateur, de groupement. Ouais. Voilà, je crois que pour nous, ça reflétait un peu l'esprit du Cairn et l'esprit de notre clairette.
Sans compter toutes les personnes qui, autour, se feront les ambassadeurs de la distribution de cette clairette un peu partout.
Ouais, et puis on veut aussi une originalité au niveau de la distribution. C'est qu'on a créé, on est en train, en tous les cas, de travailler sur un mode de distribution qui va s'appeler l'école Portin. Donc l'école Portin, ça va être en fait les ambassadeurs un peu de d'autres marques côté Cairn. Et donc c'est des gens qui vont aller porter cette image du Cairn un peu plus loin, jusque au-delà des frontières, voilà, en Europe, quoi, en tous les cas. Et donc c'est des gens qui, avec un statut très officiel d'auto-entrepreneur ou de, voilà, d'entreprise, qui vont aller commercialiser nos bouteilles et porter nos valeurs. Voilà, donc l'idée, c'est aussi d'avoir une juste répartition. Et qu'eux puissent venir compléter leur revenu de façon très, très correcte, hein, puisque un colportin, il aura un revenu très correct à la bouteille, qui, voilà, lui permettra.
Vous allez fixer une base à la bouteille et un prix maximum de vente.
C'est ça. Donc l'idée, c'est de se dire on veut que notre bouteille, eh ben, dans le nord de la France, elle soit aussi autour de 8,90 €. Mais le colportin qui va la vendre là-haut, il va gagner 2,20 € par bouteille. Donc autant vous dire que c'est un calcul très minutieux de notre part aussi, et c'est de se dire que. Chaque personne à son étage est rémunérée de façon correctement, et ce qui compte aujourd'hui, c'est que le groupement gagne sa vie, que le vinificateur gagne sa vie, que les saisonniers qui travaillent avec nous gagnent leur vie, qu'à chaque étage, en fait, chacun s'y retrouve et se dise, ben voilà, on est dans la production juste.
Tout ça en ayant viré tout un tas de directeurs, tout un tas de tranches hiérarchiques et d'intermédiaires aussi qui permettent ce juste coup. C'est ça aussi le circuit court.
Ouais, on s'est dit on va optimiser tout ça en tous les cas, et on va le faire à notre façon. Et on n'a pas trouvé de modèle aujourd'hui qui existait qui nous permet de nous accueillir. Donc on s'est dit, ben c'est un modèle coopératif en sortant de la coopérative.
Oui, puisque c'est un départ de la coopérative. Mais ceci est un autre sujet. Je sais que vous allez passer bientôt sur RDIWA pour en parler plus longuement, notamment de cette inauguration. C'est donc pour très bientôt. Écoutez, on arrive au bout de cette table ronde. Est-ce que est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Alexandre?
Voilà, ouais, Bah là, comme vous voyez bien, Cyril, il vous parle, quoi. Il innove. Il y a de l'aventure humaine, il y a de la richesse qui sort dans tout ça. Et moi, je pense. Ce projet qu'on a réalisé autour de l'agroforesterie et côté Cairn, eh ben, c'est des innovations d'avenir qui sont finalement en fait des modèles de développement territorial et puis des modèles de développement humain. Et moi, j'ai vraiment confiance là-dedans en fait, et j'y mets toute mon énergie parce que je sens que c'est quand on plante un arbre, on sent qu'il y a une nouvelle vie qui se crée. C'est quelque chose d'original finalement. Il y a un arbre, les gens s'interrogent, comme le dit Cyril, et puis. Ouais, il y a toute une aventure qui se crée autour d'un arbre, des oiseaux qui reviennent, il y a une biodiversité qui se réinstalle, et tout ça c'est la richesse en fait. Et donc l'agroforesterie, comme je la vois, c'est de redonner au terrain, au terroir, cette biodiversité qui existait auparavant, la retrouver, recultiver, la valoriser, et puis la partager surtout, quoi. C'est pour ça qu'on va faire le 4 juin un pique-nique partagé dans la vigne face au Vercors, et qu'on invite tous les sympathisants, voilà. À se rejoindre.
Et plein d'autres, alors, parce que là, il y a plein de gens qui écoutent.
Ouais, du coup, je voulais dire aussi à tous les Diwa qui étaient. Tous les Diwa ou même tous ceux qui veulent participer au projet et venir participer à ces journées d'échange. Alex, tu laisses donner ton mail, du coup.
Ouais. Donc, c'est alexandre.moras, M-A-U-R-A-S, @gmail.com. Voilà. Et mon portable, c'est 07 82 07. 15 07. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent participer à des événements, à des ateliers, ils peuvent me contacter et je leur envoie toutes les infos nécessaires et complémentaires pour qu'ils puissent nous suivre et rejoindre l'aventure.
Voilà, et puis si vous avez besoin d'un mec qui est très 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 à fond pour planter des arbres partout chez vous, n'hésitez pas. J'en reviens à cette table ronde qu'on a eue tout à l'heure sur l'onotourisme. Oui, les paysages ont été façonnés par de beaux coteaux qu'on connaît bien rectilignes et bien propres, mais ils seront d'autant plus beaux avec des arbres, par exemple, et aussi avec des tailles raisonnées, avec une biodiversité qui peut se développer parce qu'elle n'est pas maltraitée sans cesse avec des seeds. Merci Cyril, je te vois reprendre ton micro.
Ouais, juste la chose que je voudrais ajouter, c'est que je pense qu'on peut imaginer que cette agroforesterie, en tous les cas, cette plantation d'arbres autour des vignes se développe, mais chacun doit pouvoir l'imaginer aussi à sa façon. C'est-à-dire que si demain, même quelqu'un qui a une parcelle qui fait 2 hectares d'un seul tenant, s'il vient rajouter un arbre au bout de sa parcelle, même si c'est rien par rapport à ce qu'on a fait nous, en tous les cas, c'est ça le début de la reforestation de notre milieu viticole. Et je pense que ça a apporté tout le monde, et je suis sûr que tout le monde, même dans des différents modèles de production, soit en conventionnel ou en agriculture biologique, peu importe, je pense que tout le monde a le souhait de faire ça. Et j'espère qu'en tous les cas, cette idée fera le tour de voilà, que ça se développera et que chacun se sentira capable de planter un arbre.
Ouais, tu fais bien de le dire, on n'est pas obligé d'en planter 201. Ça,
voilà, c'est ça.
Vous êtes des fous, mais c'est bien, et c'est ça, c'est novateur, en espérant effectivement que ça fasse des petits. Merci à tous les deux, Cyril, Alexandre, encore une fois. Et bonne suite. On va suivre cette aventure côté Cairn, bien sûr. Et donc rendez-vous au 4 juin. Et à bientôt sur cette antenne.
Et merci beaucoup à Radio Diwa pour se faire l'écho de ce projet.
Merci.
Et ben de rien.